Donc, voilà, il est 8h30, nous commençons. D'abord, eh bien, un rappel que je dois faire de la part du secrétaire académique, c'est que ceux, celles qui ont l'intention de suivre ces 12 heures, qui n'ont pas encore versé leur obole, eh bien, peuvent le faire, je ne sais pas trop comment, mais enfin, hein, probablement au secrétariat en haut. Voilà. Donc, j'ai rempli le devoir, eh bien, que, eh bien, on m'imposait. Et donc, nous entrons dans ce cours qui va porter sur l'Eucharistie. Bah, je dirais presque, c'est une grâce que de pouvoir, pendant une douzaine d'heures, comme cela, entre nous, eh bien, de méditer et de comprendre un peu mieux, eh bien, ce sacrement qui est le sacrement de l'Eucharistie et qui, comme le disait le Concile Vatican II, est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Elle est la source et le sommet de notre vie chrétienne parce que c'est d'abord une personne, la personne de Jésus, la personne du Christ. Et alors, contrairement aux autres sacrements, qui sont aussi des actes du Christ, comme le dit la théologie, eh bien, ce sacrement contient précisément, eh bien, celui qui est notre joie et notre sanctification. Il est là, il est présent. Donc, voilà, c'est un premier fait. En même temps, vous le voyez bien, l'Eucharistie, malgré tout, eh bien, est une composante essentielle de notre vie chrétienne. Chacun, chacune d'entre nous, je dirais, vont à la messe au moins tous les dimanches. Certains, certaines, peut-être, y vont tous les jours. Ce sont toujours, eh bien, les mêmes gestes du Christ. Ce sont toujours, eh bien, les mêmes paroles de l'Église. Et pourtant, eh bien, ce sont elles qui nous façonnent, même lorsque parfois on y va de façon inévitablement, avec nos pauvretés et de façon un peu distraite. Donc, de ce point de vue-là, eh bien, ce sont des actes que nous posons, et alors, eh bien, qui nous unissent au Christ lui-même. C'est bon de se le dire. Alors, ce cours sera, non pas un cours d'écriture sainte, comme au premier semestre, mais je dirais, voilà, un cours de théologie. Le mot peut faire peur, je pourrais même dire un cours de dogmatique. C'est un cours de théologie. Et alors, vous le voyez bien, avoir des intitulés, certains d'entre eux, il faut bien employer un vocabulaire technique, lorsqu'on veut parler de façon brève, mais par dire un cours de théologie ici, c'est tout simplement vouloir dire combien la manière dont on voudrait en arriver à avoir, je dirais, une intelligence intérieure, une saisie, et bien non seulement de ce que le Christ fait, mais aussi en même temps de ce que l'Église, de ce que le prêtre, de ce qu'à chacun d'entre nous, il y a des gestes que nous posons. Vous le voyez bien, ce n'est pas de faire de la science, c'est finalement, éventuellement, ce serait, je dirais, de pouvoir voir un peu mieux, sentir un peu mieux, eh bien, non pas des gestes que nous avons à inventer, nous les faisons, nous les connaissons, ils sont une partie de notre vie, mais peut-être, éventuellement, eh bien, pour les vivre mieux. Je dirais aussi, vous le voyez, ce cours sera réussi, si de fait il nous met devant la beauté du mystère chrétien. Vous le voyez bien, l'Eucharistie, on le proclame d'ailleurs après la consécration, c'est le mystère de la foi. Hein. Et donc, de sentir la beauté qu'il y a derrière, mais ce qui se passe à l'autel. Hein. Et alors, eh bien, ce dans quoi chacun d'entre nous, nous nous trouvons donc engagés. Donc, à ce niveau-là, voilà, un peu l'optique dans laquelle, eh bien, je voudrais que nous fassions, eh bien, ce parcours hein, dans les 12 heures qui vont venir. En même temps, vous le voyez bien, nous sommes au cœur du mystère chrétien. Et c'est aussi une occasion, ça sera spontanément, puisque c'est tout de même le sacrement de l'unité, eh bien, une occasion de sentir aussi, peut-être, de donner plus de poids, eh bien, à tout ce qui fait l'Église, ou alors, puisque l'Église est en même temps un mystère d'unité, hein, et aussi, puisqu'elle est un mystère d'unité, elle connaît aussi, ce qui est, aussi ses fractures, eh bien, je dirais de prendre, on va se trouver à prendre contact aussi avec des spiritualités. Hein. Je dirais la première, ce serait dans la liturgie ou la spiritualité, ou encore eh bien, la grande tradition juive, puisque Jésus a institué à la dernière scène, dans le contexte même de la prière de bénédiction juive. Hein. Et que c'est cette prière de bénédiction juive qui sera la matrice de la prière eucharistique que nous connaissons à travers les siècles. Elle n'est pas née tout simplement d'une génération spontanée. Elle a un passé. Et donc, à ce niveau-là, voilà, nous allons prendre contact avec la prière de bénédiction juive. Nous allons aussi, à mesure que nous étudions les prières eucharistiques, même brièvement, bien sentir tout de même la différence. Nous partageons la même foi, mais la différence de spiritualité ou de sensibilité qu'il y a entre la théologie latine, la messe telle que nous la célébrons, et alors eh bien, la manière dont les liturgies orientales célèbrent la messe. Cela, on pourrait dire, est inscrit dans « on ne l'invente pas », on n'a qu'à étudier les prières et on voit des accents différents. Ce sera aussi une occasion, puisqu'au fond, je disais, il y a aussi des fractures, eh bien, peut-être pour la première fois entre nous, à la fois de voir les affinités et en même temps les incompréhensions qu'il y a avec, je dirais, l'Église de la Réforme, puisque c'est au XVe siècle que viendra la contestation de Luther, et qui marque elle aussi les sensibilités et les esprits. Donc, vous le voyez, nous ne faisons pas uniquement de la théologie en chambre, puisque, eh bien, nous nous laissons enseigner par la manière dont, à travers les siècles, eh bien, voilà, l'Église a célébré l'Eucharistie, eh bien, nous entrons, du coup, en contact aussi avec, eh bien, avec tout le monde chrétien sous ses différentes formes. Voilà pour introduire, peut-on dire. Je dirais seulement ceci avant de passer à le thème d'aujourd'hui qui est la scène. Je dirais d'abord deux choses. D'abord, eh bien, vous le voyez bien, il y a dans la liturgie de la parole et alors la liturgie de la table. La liturgie de la parole, eh bien, c'est le lectionnaire, on voit bien, la manière dont surtout il a été renouvelé avec Vatican II, et qui est un élément essentiel de la célébration eucharistique. Voilà. Il reste que nous, eh bien, nous laisserons de côté l'étude du lectionnaire, nous en resterons à la liturgie de la table, c'est-à-dire finalement eh bien, à ce qui se passe dans la prière eucharistique elle-même. Premier point. Deuxième point, juste pour dire les choses, mettre les choses au clair, peut-on dire, eh bien ce cours est un cours de théologie et non pas un cours de liturgie. Vous le voyez, il y a eu Vatican II, il y a eu la réforme de Vatican II, eh bien, l'idée n'est pas d'entrer dans le débat des 50 dernières années et qui touche la liturgie. Ce débat est extrêmement intéressant parce qu'il montre que finalement, même nous sommes marqués par les rites, ça marque notre corps. Personne n'est indifférent à la manière dont, par exemple, on chante, on est debout, on est à genoux, dans la liturgie. Je remarque même ici à l'IET, lorsqu'est arrivé, même dans nos réunions, à parler même de liturgie, en général, sans s'en rendre compte, le nombre de décibels augmente. Parce que chacun se sent concerné, jugé même par les autres. Voilà. Cela, ça fait partie de la vie. C'est important de voir donc que ce n'est pas indifférent, mais eh bien, nous en resterons tout simplement, indépendamment de cela, à essayer de nous laisser enseigner eh bien, par ce que le Christ fait et en même temps eh bien, ce que l'Église fait dans la liturgie, ce que nous faisons. Voilà pour introduire le sujet. Alors, le premier, cette fois-ci, comme je disais, eh bien, ça porte sur la scène. Avant d'aborder la scène elle-même, juste un petit mot sur ce qu'a été la pratique de l'Église du 1er siècle. On se laisse enseigner par ce que l'Église a fait. Or, ce qu'on constate, c'est que si on regarde dans les Actes des Apôtres, eh bien les Épîtres de Saint Paul, il est peu parlé de l'Eucharistie. Il n'en est même pas parlé, en ce sens que le mot Eucharistie ne va devenir un mot de l'Église qu'à partir du IIe siècle avec Ignace d'Antioche, et alors il devient l'expression consacrée pour parler de la scène avec, entre autres, Justin vers les années 150. Donc, nous n'avons pas le mot Eucharistie. Mais alors, Saint Paul va nous parler du repas du Seigneur. Et alors, dans les Actes des Apôtres, on va nous parler de la fraction du pain. Donc, en même temps, voilà, moins pour Saint Paul, on pourrait dire que c'est presque comme occasionnellement, à l'occasion d'autres choses, que, eh bien, Saint Paul a été amené à parler du repas du Seigneur. Au fond, c'est dans la Épître aux Corinthiens, il était là à traiter enfin, des comportements qu'on doit avoir dans l'assemblée, tout ça, lorsqu'on se réunit. Et alors, eh bien, tout d'un coup, bien, il remarque, il fait remarquer que, eh bien, lorsqu'on va au repas du Seigneur, c'est lui qui a le mot. Voilà, eh bien, il y a des divisions entre les d'assemblée elle-même. Non seulement cela, mais il y en a qui mangent tout leur plein, alors que d'autres sont à côté et alors, ont faim. Et c'est à ce moment-là, à propos de cela, qu'il en appelle lui-même, à cette, comme il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur. Nous sommes autour des années 50, donc c'est à peu près pas beaucoup plus que 20 ans après. La mort, la résurrection du Christ, eh bien, il en appelle à ce qu'il a reçu d'une tradition, et c'est là qu'il nous rapporte, ce qui s'est passé à la dernière scène. Nous reviendrons là-dessus ensuite. C'est important, c'est seulement de voir le contexte, l'occasion. Ce n'est pas un enseignement doctrinal, c'est tout simplement, et pour rappeler à l'ordre, de rappeler ce que le Seigneur lui-même a fait. On peut retenir au moins deux leçons, de ce passage de l'Épître aux Corinthiens. D'abord, on voit bien que, il y avait un repas. On pourrait dire, de ce point de vue-là, que l'Eucharistie, pas ce mot, il n'est pas là, mais enfin, c'était un repas dans le repas. On ne sait pas exactement quelle était la séquence, comment ça se repartissait, mais il y avait sûrement un repas, puisqu'au fond, il va même dire à la fin, que ceux qui ont faim, trop faim, mais qui mangent d'abord chez eux. Voilà. Donc, il y a donc un repas partagé, convivial, à l'intérieur de cela, il y a le repas auquel le Seigneur invite, et qui lui est le repas du Seigneur. C'est un premier trait à retenir. On n'en sait pas plus sur, on pourrait dire, la manière dont c'était célébré, les rites. Mais voilà. Deuxième élément qui est à retenir, voyez-vous, déjà là, puisqu'au fond, il sera dit, eh bien, que, eh bien, il faut discerner, le corps du Christ. Hein. Celui qui mange et qui n'est indigne, eh bien, reçoit sa propre condamnation. Hein. Autrement dit, ce repas du Seigneur, ici, n'est pas de même ordre que ce qu'ont été les repas de Jésus avec les pécheurs durant sa vie publique. Hein. Ce que certains protestants voudraient proposer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a mangé toute sa vie avec les pécheurs. Hein. Voilà. Ici, eh bien, il faut pouvoir discerner le corps du Christ. Autrement dit, il est mis de même un principe d'exclusion, si on n'est pas digne, hein, si est de pouvoir et, eh bien, participer donc à l'Eucharistie. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut retenir comme élément qu'on peut avoir de la pratique. Alors, donc, il y a le mot le repas du Seigneur. Alors, le deuxième terme qu'on pourrait dire technique, hein, pour parler de ce que nous voulons parler, c'est-à-dire de l'Eucharistie, eh bien, c'est le terme qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres et qui est donc la fraction du pain. Autrement dit, je lis un texte parce que vous le connaissez, mais c'est bon de se le remettre en mémoire. Ils étaient, c'est au début, la communauté qu'on pourrait dire idyllique, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Et alors plus loin, il poursuit, unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple, ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité du cœur. Il y a l'enseignement des apôtres, et on voit bien en même temps que, eh bien, les premières communautés chrétiennes n'avaient pas encore été expulsées de la synagogue. Autrement dit, la prière liturgique, elle se faisait au temple. Hein, ils allaient au temple pour prier. Autrement dit, il n'y avait pas encore, comme tel, une liturgie de la parole en bonne et due forme. Hein. Bon. On s'insérait, on restait inséré dans la liturgie juive. Et alors, par ailleurs, ce qu'on appelle l'Eucharistie, enfin, la fraction du pain, elle se faisait dans les maisons. Il n'y a pas un lieu, une église particulière, c'est dans les maisons. Et alors, on voit bien qu'il faut distinguer encore ici entre cet acte, ce que signifie le fait de rompre le pain et le fait de prendre la nourriture. Je relis le texte. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité du cœur. Donc, ces deux éléments, un peu, comme nous l'avons reconnu, donc, à Corinthe. Autrement dit, la fraction du pain se faisait ou était suivi d'un repas convivial entre chrétiens. Alors, tout le rite, vous le voyez bien ici, qui est derrière l'Eucharistie, se trouve résumé dans ce terme, la fraction du pain. Et qui, de fait, renvoie, nous le verrons encore davantage plus loin, eh bien, à un élément important, en tout cas, de ce que était, je veux dire, la liturgie domestique. Nous sommes dans le meilleur des cas, eh bien, habitués, avant de commencer un repas, eh bien, à dire un bénédicité. Voilà. Voilà. Eh bien, pour les Juifs, il y a la... Parce que la fraction du pain est en même temps une bénédiction du maître de maison, qui en bénissant Dieu pour le pain, eh bien, inaugurait le repas, eh bien, en le rompant et en le partageant entre les fidèles. Alors, on voit bien qu'il y a là un geste qui est celui du Christ, mais en même temps qui s'insère dans ce qu'était tout de même la liturgie domestique, familiale. Voilà pour cela. Alors, un autre élément, c'était au chapitre 20 de Saint-Luc, des actes. Il nous parlait de, Paul à Troas. Et je lis ceci. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec eux. Alors l'histoire est celle-ci, c'est que pendant que Paul parle, s'entretient, il y a un jeune homme qui était là et qui d'un coup s'est endormi, est passé par la fenêtre et s'est retrouvé donc sur le sol. Voilà. Alors donc, ça arrive qu'on s'endorme durant les homilies, voilà. Et alors donc, Paul court, va le chercher, leur secours, remonte en haut, et alors, nous a-t-il dit, Paul descendit, le ranima, et remonta, et alors, rompit le pain et mangea. Et l'ombre encore, il parla jusqu'au point du jour. Donc, deux choses. La première est importante, c'est que vous voyez que la fraction du pain, l'Eucharistie, se célébrait le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. Le deuxième point, vous le voyez bien, il y a l'enseignement des apôtres. Non, à sa façon, eh bien, l'enseignement de Paul, il s'entretenait. Il n'était pas là nécessairement à faire une homilie, il va donner des nouvelles et tout ça, mais en même temps, voilà, un enseignement. D'une part, et de l'autre côté, vous le voyez, il rompit le pain et mangea. Donc, il n'est pas dit il mangea. Il y a les deux gestes qui ne sont pas seulement du geste de rompre, mais aussi eh bien, le repas convivial. Voilà ce que nous avons, peut-on dire, eh bien, et qui nous vient donc des actes des apôtres et en même temps eh bien, de Saint Paul. Alors, on a tout cela. En même temps, comme vous le voyez, eh bien, nous ne sommes pas mis devant une liturgie eucharistique au sens propre du terme. Comment les choses se passaient? Comment se faisait la fraction du pain? On voit qu'elle est là. Mais en même temps, eh bien, nous ne sommes pas encore au courant. C'est peut-être les rites qui étaient là. Alors, il y a, voyez-vous, c'est une façon de conclure aussi cette partie-là, eh bien, l'apparition aux disciples d'Emmaüs, qui est là, qui est le cas, le prototype, on dit, de toute célébration eucharistique. D'abord, eh bien, Jésus qui est là, et qui parle en chemin aux disciples, et qui leur rappelle tout l'Ancien Testament, comment il fallait qu'ils souffrent. Et alors, eh bien, ce moment où les disciples d'Emmaüs le reconnaissent à la fraction du pain. Bon, en un sens, eh bien, ça ne pouvait pas se passer, je présume, comme ça, le soir de Pâques. Jamais Jésus n'avait parlé de la fraction, avait employé ce mot, la fraction du pain. Les disciples d'Emmaüs n'étaient tout de même pas là, au moment de la scène. On voit jusqu'à quel point l'épisode des disciples d'Emmaüs reprend ce qui était tout de même, ce qui était devenu un peu la vie des communautés des premières décennies, donc après la mort du Christ. Voilà. Voilà pour ce qui en est. Maintenant, on en arrive du coup, eh bien, à la scène elle-même. Pour savoir, au fond, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie. Et donc, je vous ai passé, savez-vous, je vais vous suivre. Donc, vous avez ici une synopsis, peut-on dire, comment on appelle, des différents récits ou des différentes relations qui nous ont fait, qui nous sont faites, eh bien, du dernier repas de Jésus avec les siens. Alors, on a donc quatre récits. Marc, Matthieu, Luc, ça c'est les synoptiques, et alors, eh bien entendu, ce texte de 1 Corinthiens dont je vous parlais, où j'avais sauté précisément, eh bien, ce que Paul rappelait de ce qu'il avait reçu des paroles du Seigneur. Alors, quand, même sans les avoir lus attentivement, eh bien, en les mettant uniquement en parallèle comme cela, on est frappé par les concordances. on pourrait presque dire à première vue, eh bien que c'est du mot par mot, hein, eh bien ce qui se répète d'un récit à l'autre. Enfin, au moins, les colonnes se renvoient les unes aux autres sur plusieurs points. Et pourtant, en même temps, c'est ça, nous allons voir dans un instant, les mots ne sont pas nécessairement les mêmes, hein, d'un texte à l'autre. Enfin, en même temps, ce qui frappe, voyez-vous, hein, c'est que nous ne sommes pas devant un reportage, peut-on dire, hein, journalistique. Hein. Il n'y a rien qui soit anecdotique dans ce texte. Hein. Voyez-vous, même là, hein, on nous disait que Jésus avait envoyé les disciples, hein, pour préparer la Pâque. Bon, hein, on ne nous parle pas des coussins, hein, on ne nous parle pas de l'agneau pascal, on nous parle d'aucun aliment, je veux dire, qui toucherait là. Hein, hein. Nous sommes devant des textes qui déjà, lorsqu'ils nous arrivent, je dirais, sont comme... dépouillés et en même temps, eh bien, qui ont la patine de, on pourrait, d'un usage liturgique, voyez-vous, hein, un usage liturgique, c'est-à-dire dépouillé de tout ce qui est accessoire, hein, et alors, eh bien, qui en reste donc à l'essentiel. Pas un mot des disciples, hein, c'est le Christ, deux gestes qu'il pose donc, au milieu donc, des siens. Et pour dire même plus clairement, et nous aurons l'occasion de le voir, hein, les gestes, hein, il les reçoit, hein, il les reçoit, hein, de la piété et de la pratique, peut-on dire, de tous les jours, eh bien, de son peuple, du peuple d'Israël, autrement dit, hein, les gestes bénir, hein, le pain, ensuite, eh bien, là, on aura le mot aussi, parfois, action de grâce, bah, il le reçoit. Ce qui, tout d'un coup, est vraiment là, où il s'affirme pour ce qu'il est en lui-même et pour nous, on pourrait dire, c'est dans les paroles explicatives qu'il apporte, hein, hein, ce qu'il fait, comme tout père de famille faisait en rompant le pain, voilà, il déclare que c'est son corps. Même chose, eh bien, pour la coupe, eh bien, et que c'est son sang. Donc, voilà. Il y a donc elle est marquée par un usage liturgique. Et du coup, vous le voyez, c'est vrai, ça sera toujours vrai dans l'écriture. On essaie toujours de trouver ce qu'on appelle en latin les ipsissima verba, les paroles qui n'auraient été que celles du Christ. Hein. Eh bien, de fait, on le voit, les paroles du Christ, en même temps, ont toujours été entendues par l'Église qui priait. Hein. Et du coup, eh bien, les paroles du Christ sont entendues sur l'arrière-fond de l'Ancien Testament, tel que les évangélistes eux-mêmes, eh bien, les ont perçues. Donc, de ce point de vue-là, le texte va à l'essentiel et on doit le recevoir précisément comme cela. Bon. Alors, lorsqu'on regarde de plus près, hein, même sans avoir lu tout, vous le voyez bien, il y a des affinités entre les deux premières colonnes, Matthieu et Marc. De la même façon qu'il y en a, hein, entre Luc et Paul. Bah, ne serait-ce que pour voir qu'il y a des affinités entre les deux dernières. Voyez-vous, prenez une ligne là, au milieu, il est dit... Et pour la coupe, de même, après le repas. Voilà. Les deux disent tout de même une séquence. Hein, ce que mettent, ne font pas les évangélistes Marc et Matthieu, hein, qui mettent les deux gestes se suivant l'un l'autre. Donc, nous sommes là. Alors, il y a comme une double tradition, même si de fait, hein, sauf le texte de Corinthiens des années 50, tous les autres textes sont des années 80, quoi. On peut même pas parler d'une ancienneté de l'un par rapport à l'autre. Enfin, on dira, hein, vous allez voir, peut-être que ensuite ça s'éclairera davantage, Matthieu et Marc, ce serait une tradition jérusalemite, c'est-à-dire davantage du milieu de Jérusalem. Tandis que l'autre, Luc, hein, Paul, ce serait une tradition antiochienne. Bah, oui, bien, Antioche, c'est là que pour la première fois, eh bien, les chrétiens ont été appelés chrétiens, quoi. Hein, voilà. Donc, d'où la différence aussi d'accent et de perspective entre eux. Alors, je pars, parce que c'est ça l'idée. Celle-là, c'est d'en arriver à voir qu'est-ce que Jésus a fait. Hein, et la manière dont il l'a fait. Hein. Non pas seulement d'étudier un texte, mais finalement, eh bien, d'accueillir eh bien, les gestes que lui-même a posés à ce moment-là. Ah, il y a un premier trait hein, qui aide à situer hein, les paroles mêmes hein, du Christ parmi ses disciples, et c'est dit clairement, on le voit clairement, il y a un avant et il y a un après, peut-on dire hein, ou alors il y a un cadre. Hein, et au point de départ, hein, et de Matthieu et de Marc, vous avez eh bien, la figure du traître, hein, l'annonce de celui qui va le livrer. Il est important hein, de se dire que dans tout récit hein, qui a un rapport avec l'Eucharistie, et c'est vrai dans l'évangile de Jean aussi, hein, il y a toujours eh bien, la figure eh bien, de celui qui a livré, de celui qui a trahi, le traître. Il y a un côté de ce point de vue-là, au moins, et c'est vrai, nos Eucharisties se vivent tout de même dans le monde, avec le monde d'aujourd'hui, ils ne sont pas seulement une célébration céleste, il y a toujours un côté en même temps beau, mais dramatique à l'Eucharistie. En termes humains, on pourrait dire tragique, parce qu'en ce sens, on ne sait pas ce qui advient du fils de perdition, qui de fait lui-même, hein, eh bien, a causé la mort de Jésus. Mais, précisément, le Christ est passé par la mort pour sauver ce qui était perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, tragique serait une fin, hein, voilà. Hein, tandis que dramatique dit tout de même le sérieux, hein, et en même temps de ce que le Christ lui-même fait en se livrant. Il se livre jusqu'à un certain point. C'est Judas qui le livre. On pourrait dire qu'il se livre pour Judas. Cela nous échappe. Mais cela est précisément peut-être notre espérance par-delà la mort. Bon, en tout cas, peu importe, hein, on voit qu'il y a. Et alors à la fin, vous avez la dernière phrase hein, que vous savez chez l'un, chez l'autre. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Autrement dit, nous sommes devant l'imminence du départ du Christ. Il le dit lui-même, c'est le dernier repas que je prends avec vous. Je le reprends, cette coupe, je la boirai à nouveau, mais uniquement avec vous, dans le royaume de mon Père. Vous le voyez, hein, du coup, eh bien, ça donne dans quel, d'abord, comment entendre, comment accueillir eh bien, les paroles, les gestes que le Christ va poser donc, à la dernière scène. Et en même temps, eh bien, il part, eh bien, il annonce un nouveau mode de présence. Hein, c'est ça. Hein, il n'est pas là à faire en un sens des adieux. Il a à leur dire un nouveau mode de présence hein, à eux. Eh bien, en son corps et en son sang. Donc, voilà, et on pourrait dire, eh bien, pour ce qui regarde l'arrière-fond. Un autre mode de présence aussi, un autre mode de présence, pas seulement aux disciples, parce qu'il faut pouvoir se dire, à chacun, chacune d'entre nous, en chaque Eucharistie. Hein, voilà. Hein, nous ne sommes pas ici uniquement des événements qui se sont passés, mais précisément ce qui fait chaque Eucharistie. Alors, si on continue hein, avec le texte comme il est là, hein, je lis. Or, comme il mangeait, donc c'est au cours d'un repas, Jésus ayant pris du pain et prononçant la bénédiction, il le rompit et l'ayant donné aux disciples, Il leur dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Je lis la suite, juste pour. Hein. Ayant pris la coupe, voyez-vous, les deux gestes se suivent. Hein. Il n'y a pas de réaction des disciples. Ayant pris la coupe, ayant rendu grâce. Voilà. Nous avions auparavant, hein, ayant prononcé la bénédiction. Hein. Le mot bénédiction, voilà, nous renvoie précisément à la prière de bénédiction juive, la beraka, comme on dit. On y reviendra. Alors que le deuxième, ici, eh bien, ce sera, on emploie le terme, ayant rendu grâce. Ayant rendu grâce, c'est eucharistessas, c'est le verbe, c'est eucharistie, quoi. Hein? C'est le terme, ayant fait eucharistie, peut-on dire. Hein? Hein? Alors, il leur dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang de l'Alliance, qui est versé pour la multitude et pour le pardon des péchés. C'est le texte tel que nous l'avons. C'est bon de le voir parce qu'on comparera et on verra mieux, d'autant mieux ensuite, eh bien, ce que, eh bien, on trouve en plus chez Luc. Alors donc, il y a d'abord, eh bien, sur le pain, la parole de bénédiction. Hein. Bon, nous y reviendrons, mais vous le voyez bien, parce qu'on voudra sur la prière de bénédiction des Juifs, hein, mais on voit bien. On la retrouve exactement maintenant dans la liturgie de la messe à la présentation des oblats, ce qu'on appelait auparavant l'offertoire. Hein? Autrement dit, la prière de bénédiction n'est pas bénir le pain, hein? Elle est bénir Dieu. Hein? Bénir Dieu de ce qu'il nous donne la vie. Hein? Bénir Dieu de ce que de sa fidélité, eh bien, il donne le pain. Hein? Si bien que le maître de maison, eh bien, en partageant le pain, en un sens, il continue, hein, hein, prolonge une bénédiction et vient, qui vient de Dieu lui-même. Et donc, voilà là ce qu'a été la prière de Jésus, hein, qui était d'abord une prière de bénédiction. Or, voyez-vous, c'est ça qui est intéressant, qui est important, voyez-vous, c'est qu'en un sens, il ne l'a pas inventée, cette prière. Il la reçoit de son peuple. Autrement dit, eh bien, il rentre dans le rapport de fidélité, eh bien, d'Israël à son Dieu. Dire bénédiction, c'est tout de même avoir, comme dans une reconnaissance exultante, hein, eh bien, reconnaître, autrement dit, eh bien, sa dépendance de Yahvé. Hein. Et je dirais, de ce point de vue-là, pour le Christ, il n'a pas, et en les prenant, il dit tout simplement à ce moment-là, eh bien, sa dépendance, hein, par rapport au Père. Il se reçoit du Père. Eh bien, voilà. Et il reçoit le pain qu'il est là, eh bien, de la part du Père, comme les fruits de la création. Et alors, voilà ce qui est intéressant, hein, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de ce rapport, hein, de dépendance, hein, eh bien, voilà, hein, c'est le Christ lui-même, hein, dans son autorité, hein, souveraine, hein, eh bien, qui dispose de ces éléments, hein, et qui leur donne tout d'un coup un être nouveau, hein, et qu'il pouvoir dire que ce pain qu'il reçoit, eh bien, il l'offre à ses disciples comme son propre corps. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Selon moi, c'est là qu'est l'acte de puissance, hein, et où le Christ lui-même, eh bien, en se recevant du Père, on est, dispose de, non seulement de lui-même, mais dispose des éléments de ce monde, hein, pour faire précisément du corps du Père, son propre corps. Si bien que ce que les disciples reçoivent, ce n'est pas du pain. Comme il le dit lui-même, eh bien, c'est mon corps. Hein, donnez pour vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Donc, voilà, hein, ce qui en est derrière, autrement dit, les gestes. D'une part, il rentre dans une tradition, et on voit bien, il la transforme en pouvant dire que, eh bien, ceci est mon corps, de la même façon qu'il pourrait dire, eh bien, ceci est mon sang. Alors, vient alors la deuxième, hein, et c'est là qu'on a, hein, très sobre le texte, comme vous le voyez, hein, en un sens, les apôtres, le côté anecdotique est laissé de côté. Hein. Les apôtres ne sont pas là à poser des questions. jusqu'à un certain point, ils ne comprennent pas, et en même temps, ils comprennent. Hein? Parce que les gestes parlent. Hein? Le fait qu'il y ait et le corps et le sang séparés, hein, renvoie d'abord à une mort violente, et renvoie tout de même à l'idée de sacrifice. Hein? Cela, ils le reçoivent de l'Ancien Testament. Hein? Et alors, eh bien, à travers le Christ lui-même. Et alors vient, alors, comme vous le voyez, la deuxième, et buvez-en tous, car ceci est mon sang et le sang de l'Alliance. Alors voilà, ici on voit, on entre, peut-être qu'on peut dire, dans la perception, eh bien, et que Marc et Matthieu ont eu la portée, peut-on dire, de ce geste qui portait, eh bien, sur la coupe elle-même. Hein. Il est dit ici, voyez-vous, est le sang de l'Alliance qui est versé pour la multitude. Alors, le sang de l'Alliance, ça renvoie ici, je l'ai marqué, donc, ici, en ordre, eh bien, à, précisément, à ces chapitres magnifiques qui sont la conclusion, peut-on dire, de l'Alliance, hein, entre Yahvé et son peuple au désert, après que, eh bien, le code de l'Alliance a été émis. Donc, c'est Moïse, c'est le peuple qui permet, qui fait promesse, eh bien, de suivre le code, Dieu qui le reconnaît comme son peuple, et nous a-t-il dit, eh bien, là, on a pris le sang, des victimes, des taureaux, la moitié du sang a été répandue, donc, sur l'autel, et l'autre moitié, qui n'intervient que la seule fois dans l'Ancien Testament, sauf une fois, semble-t-il, par rapport à l'ordre sacerdotal. Mais enfin, l'autre moitié du sang, eh bien, Moïse en a aspergé le peuple lui-même, en faisant un peuple consacré, en faisant donc un peuple de Dieu. Donc, autrement dit, eh bien, le texte, en aspergeant le peuple du sang, Moïse dit, voyez voir, ceci est le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous. Et ici, le texte nous dit, ceci est mon sang, non pas le sang, mais mon sang de l'Alliance, qui est versé pour une multitude. Et donc, buvez-en tous. Autrement dit, eh bien, cette code de l'Alliance, cette alliance qui avait été scellée, voilà, elle s'accomplit en mon, non pas le sang, mais mon sang, hein, qui est le sang du Christ. Voilà, on pourrait dire l'arrière-fond, hein, parce qu'au fond, ce qui se passe là, on va voir la même chose pour Saint-Luc, eh bien, ce détail sur un fond d'arrière de l'Ancien Testament. Ce qui est tout de même remarquable, remarquable, je ne sais pas. Il n'y a aucune allusion comme telle à la Pâque ici. Ce sera Exode 24, comme on va voir ensuite Jérémie 31. Donc, alors, vient ensuite la deuxième, donc il y a celle-là, le texte continue, qui est versé pour la multitude. Or, précisément, ce mot de multitude revient à 5 fois au moins dans les chants du serviteur souffrant. J'ai donné les références là. Eh bien, sur le texte que vous avez, je crois, et le serviteur justifiera les multitudes. Autrement dit, la première référence, c'est l'Exode, c'est ce texte dont je parlais, la conclusion de l'Alliance au désert. Le deuxième, eh bien, c'est le serviteur souffrant. Et alors, à cela vient s'ajouter, maintenant, un ajout de Matthieu par rapport à Marc, on voit, en même temps, je ne dis pas que chacun y va avec sa théologie, mais aux résonances que ça... que le geste de Jésus a pu évoquer en lui, eh bien, il y a pour le pardon des péchés. dès que vous avez pour. Hein, hein, donner sa vie pour. Hein, comme le Christ, hein, dit, mettons même dans Saint Jean, voici ma chair, pour la vie du monde, eh bien, vous avez là ce qu'on appelle, hein, ce qui est vraiment là, une dimension sacrificielle. Hein, on donne sa vie pour quelqu'un, pour quelque chose. Et donc, la dimension proprement, peut-on dire, sacrificielle de l'Eucharistie, elle se dit en ce « hyper », en fait, hein, qui est « pour ». Et on voit ici, c'est pour le salut, le pardon des péchés. En grec, c'est « tel aphesintone martyone », « aphesin » pourrait presque vouloir pour l'effacement, quoi. Parce que le péché, on peut soit l'effacer, hein, soit encore, eh bien l'expier. Hein. Donc ici, c'est, si expiation, c'est le Christ qui le prend, ici, on peut dire, c'est le pardon, c'est l'effacement. Et de fait, hein, c'est la seule fois, hein, dans l'Évangile que, précisément, Matthieu met sur les lèvres de Jésus lui-même, à ce moment important, décisif de sa vie, Eh bien, ce rapport précise pour la multitude, veut dire aussi pour le pardon des péchés. Voilà un peu pour ce qui regarde Saint-Luc. Et ça, plutôt Matthieu et Marc, parce que vous voyez, ils sont très proches l'un de l'autre. Hein. En un sens, on pourrait dire, voilà, la seule trace de, un peu signifiante que Matthieu ajoute, c'est pour le pardon des péchés. Alors, j'en arrive maintenant aux deux colonnes qui suivent, hein, qui sont dans Luc, et alors, en parenté, en même temps, avec Saint Paul. Alors, ce que nous voulons, voyez-vous, c'est d'accueillir, recueillir, et bien, scanter les gestes du Christ, donc, à la dernière scène. Hein, non pas uniquement faire la théologie, mais les accueillir eux-mêmes. Alors, si on regarde, voyez-vous, on n'a pas le temps de tout le lire, mais si on regarde, alors, il y a un trait qui frappe, si on regarde le texte de Saint-Luc, c'est qu'au fond, vous êtes là, non pas, hein, d'abord, deux gestes qui se suivent l'un l'autre, presque comme liturgiquement, hein, on est devant des gestes qui s'étalent sur le cours d'un repas. Hein. À un moment donné, il sera dit, hein, après, il y a d'abord le geste sur le pain, et alors, après ça, il dit, après le repas, en disant, donc, c'est dans le cours du repas que les deux gestes, eh bien, s'étalent. Premier point. Deuxième point, voyez-vous, il y a, chez Saint-Luc, il y a de fait une première coupe. Il y a le pain rompu, et il y a une deuxième coupe. Hein. La première coupe, elle est précisément mise en lien avec, eh bien, ce qui était la conclusion de Paul et de Marc et de Matthieu, c'est-à-dire, je ne la boirai pas. Hein. Voilà, il est dit, ayant reçu une coupe, ayant rendu grâce, il dit, prenez ceci et partagez entre vous. Je vous dis en effet que je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu vienne. Ce qui était la conclusion de l'un et le point de départ de l'autre avec une première coupe. Et vous le voyez, au terme, il y aura, hein, eh bien, l'annonce du traître. Il la met à la fin, Saint-Luc, parce qu'au fond, c'est pour engager ensuite il y a un discours avec les apôtres, hein, avec Paul et Pierre, hein, dans les vents de Gilles de Luc, qui est propre à lui. Donc, on est devant une question. Hein, je ne rentre pas dans les détails. Mais bon. La question, c'est de savoir, voyez-vous, hein, est-ce que, eh bien, la dernière scène a été un repas qui suivait le rite, hein, même de la fête de Pâques juive, hein, ou bien est-ce que, de fait, hein, c'était, on pourrait dire, un repas, hein, qui était, eh bien, qui suivait, peut-on dire, eh bien, la liturgie festive d'une fête de famille, hein, juive. Le problème, il est celui-ci, il est chronologique. Hein. C'est qu'au fond, il y a une chose certaine, c'est que, eh bien, le Christ est mort un vendredi, et le lendemain, c'était le sabbat. Si vous suivez l'évangile de Saint Jean, et alors on est porté à donner au point de vue, paradoxalement, c'est le plus mystique, et en même temps, sur beaucoup de points, c'est celui qui est le plus fidèle au fait. Eh bien, on remarque toute la... Jésus est mort vendredi après-midi, au moment même où on immolait, où on préparait les agneaux dans le temple, de façon à pouvoir célébrer le soir, parce que c'est ça, la fête de Pâques, le sabbat étant un jour donc chômé. Donc, autrement dit, s'il avait fallu, c'est ça, que Jésus célèbre exactement, il y aurait eu un cours de temps trop court, trop étroit, pour qu'il puisse être arrêté, qu'il puisse être jugé, et finalement, eh bien, qu'il puisse être en lien avec même la fête de Pâques. Je n'en parle en détail, dites-vous ceci, en gros, tous les exégètes sont 50-50. La moitié disent que malgré tout, c'était un repas pascal, l'autre, pour les raisons que je dis là, dit que ça ne l'a pas été. Beaucoup d'exégètes vont dire, Jésus a dit, j'ai voulu manger cette Pâque avec vous. Mais cette Pâque, c'est d'abord sa propre Pâque, avant d'être si bien, eh bien, uniquement de rituel du repas juif. Autrement dit, ça aurait pu arriver que ça intervienne le mardi ou le mercredi. Peu importe, ça donne au moins... Enfin, je veux seulement dire, moi j'opte pour l'idée, puisqu'on n'en parle pas du tout au niveau donc du rite lui-même, je dirais ce que pourrait être la fête juive. Alors on voit une fête juive traditionnelle, et bien voilà, il y avait une première coupe de vin, après s'être lavé les mains. Ensuite venait, voilà, ce que je disais, le maître de maison qui inaugurait le repas. À la fin du repas, il y avait donc encore, on se lavait les mains, c'est une bonne idée. Et alors, il y avait une dernière bénédiction sur la coupe qui était beaucoup plus développée. Et alors, et donc nous avons maintenant de nos jours, on en reparlera, pratiquement eh bien, un schéma de base de ce que c'était que cette dernière bénédiction qu'on appelle la Birkat Hamazon, et qui est probablement eh bien, les termes dans lesquels probablement la dernière coupe de Jésus il l'a prononcée et qui de fait est un peu la matrice à partir de laquelle eh bien, vont se constituer eh bien, les prières eucharistiques. Peu importe. Enfin, retenons, au moins, il y a une séquence, et alors, il y a deux coupes. Et c'est la dernière qui est la dernière coupe qui pose. Alors, le point important, c'est de voir, voilà, comme on est avec Saint-Luc, eh bien, là aussi, vous avez une perception de l'événement même. Alors, Saint-Luc nous dit, comme la même façon d'ailleurs que Saint-Paul, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Eh bien, la phrase est la nouvelle alliance. Eh bien, cette phrase nous renvoie à un texte que vous connaissez bien, que je lis en partie, et qui est dans Jérémie 31, 31. Je lis quelques phrases, vous verrez. Voici venir des jours oracle de Yahvé, où je conclurai avec les maisons d'Israël une alliance nouvelle. Voilà, alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je l'ai pris par la main pour leur faire sortir d'Égypte, Exode 24. C'est comme ça, voilà, on passe. Non pas cette alliance, qui était celle de Matthieu, peut-on dire, mais une alliance nouvelle. Et voilà. Et voici l'alliance que je conclurai avec les maisons d'Israël en ces jours-là. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai au fond de leur cœur. Alors je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Hein? Et tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Vous le voyez, c'est une annonce. Hein? Et même hein, que Jérémie met en contraste avec celle de Exode 24, d'une promesse. Hein? Et d'une promesse annuelle, et qui est, elle, davantage axée sur, on peut dire, hein, la manière dont Dieu instruit dans le cœur, que la première, qui était fondée, peut-on dire, sur la Torah. Hein? Eh bien, voilà, hein, autrement dit, une autre, le même, hein, c'est le sang, et qui maintenant, ici, est interprété, entendu, accueilli, parce que c'est ça, il ne faut pas de réfléchir, il faut d'accueillir, hein, hein, sur l'arrière, voilà l'arrière-fond, si on peut dire, vétérotestamentaire. Il reste 5 minutes. Hein. Eh bien, je dirais, voyez-vous, d'abord seulement que remarquez l'insistance que met Luc sur « pour vous hein. ». Cette coupe, elle est versée « pour vous hein. ». De la même façon qu'à propos du pain, hein, eh bien, ceci est mon corps hein, qui est donné hein, pour vous. Hein, donc, hein, qui définit. Alors, viens alors, et chez Luc, et chez Paul, eh bien, ce qu'on appelle l'ordre de réitération. Hein, hein, et c'est la phrase hein, faites cela en mémoire de moi. Hein, vous l'avez chez l'un et chez l'autre. Faites ceci en mémoire de moi, je dirais, c'est le moment de l'institution hein, hein, de ce qui se passe à la scène comme sacrement, comme Eucharistie. Ce qui se passe à la scène comme tel est unique, tout autant que ce qui se passe à la croix est unique. Hein. Il n'y a qu'une fois où Jésus tout de même a pris ce repas avec ses disciples. Et voilà que l'ordre de réitération fait que ce qui s'est passé une fois, eh bien, les disciples eux-mêmes font ceci. Hein, il leur est demandé de le faire hein, en mémoire de lui. Vous avez donc, vous le voyez, fait ceci. Hein, ce qui veut dire que ce qui va... Toute Eucharistie hein, est un acte du Christ et pourtant elle sera un acte de l'Église. C'est en l'Église, en faisant ce que le Seigneur a fait, hein, eh bien, c'est ainsi qu'elle nous le rend présent dans ce qu'il a été à ce moment-là. Autrement dit, vous avez à travers cette phrase, je dirais, l'institution du sacrement. Et vous avez aussi, comme le dira le Concile de Trente par la suite, vous avez aussi l'institution du sacerdoce ministériel, hein, de l'ordre des prêtres dans l'Église. Hein, et qui fait, croyez-vous, ce que là nous accueillons, comme là, hein, en écoutant le texte, comme nous l'avons fait, eh bien, voyez-vous, c'est dans la mesure où c'est fait, hein, sur l'ordre du Seigneur, hein, et ce qu'il demande, c'est de faire ceci, c'est de faire ce qu'il a fait. Hein. Ah, c'est pas... Et de ce point de vue, la messe n'est pas hein, simplement la mémoire, hein, un peu nostalgique, de vouloir l'imitation. Nous ne sommes pas à imiter, nous refaisons. Hein. Sur ordre du Seigneur, en reprenant ses paroles, qui n'est pas uniquement imitation, mais qui est être. En lieu et place de lui, hein, de dire faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Eh bien, c'est un mot important dans l'Ancien Testament. C'est un amnésie. Ça renvoie aussi au mot qu'on retrouve dans la liturgie, un mémorial. Hein. Un mémorial, vous voyez, dans l'Ancien Testament, habituellement, c'est une stèle, c'est un événement. C'est un temple, bah, surtout, c'est un événement comme la mer Rouge. Ah, c'est là, hein, c'est arrivé. Hein, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est un fait. Et un fait, eh bien, auquel, dont on peut se rappeler, auquel on peut en appeler aussi pour s'en remettre au souvenir de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, ce n'est pas seulement une mémoire, on peut dire, intentionnelle, psychologique. Hein? Il y a un fait, il y a une chose, il y a une personne, et qui de fait fait office de mémorial, hein, pour nous mettre dans, en relation avec Dieu. Donc, voilà, autrement dit, eh bien, c'est ainsi, peut-on dire, que l'Eucharistie, elle est vraiment, puisqu'on voit bien que de part et d'autre, aussi bien dans Matthieu, Marc, que dans Luc et Paul, elle est un mystère de l'Alliance. Hein, l'Alliance en son sang. Et précisément, c'est ce geste-là, bien que on reprend, fait ceci en mémoire de moi, et bien en chaque Eucharistie. Voilà, il est l'heure, nous arrêtons, nous reprendrons la fois prochaine, enfin, on n'aura pas terminé, hein, mais la chose importante de près, avant de réfléchir, c'est d'accueillir, hein, donner du poids au mot, hein. Donner du poids aux gestes eux-mêmes et se laisser donc guider par eux. Merci, Jacques.